présence le grand entretien.
Et oui, avec lui, nous allons revenir sur la rentrée sur fond d'émotion qui a eu lieu lundi dernier. Nous verrons aussi comment la laïcité est garantie dans les établissements de l'Académie de Toulouse, comment la sécurité des enseignants et celle des élèves est assurée. Bref, comment l'Académie fait face à la menace islamiste tout en ayant une partie de ses forces mobilisées sur un autre front, le front sanitaire. Bonjour Mostafa Fourar.
Bonjour.
Vous êtes recteur donc de l'Académie de Toulouse depuis septembre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une arrivée mouvementée pour vous. Alors, je vais vous demander d'abord un mot sur la rentrée. Vous étiez ce lundi 2 novembre au lycée Pierre d'Aragon de Muret pour rendre hommage, comme un peu partout en France, à Samuel Paty. On imagine beaucoup d'émotions dans cet établissement comme ailleurs,
Oui, c'est vrai que c'était un moment très fort. D'abord, il y avait la quasi-totalité des élèves dans la cour, ce qui s'est fait d'ailleurs au détriment de la distanciation physique. On n'a pas souhaité exclure certains élèves, donc il fallait absolument maintenir tous ceux qui souhaitaient participer, les professeurs. Et c'était un moment, je crois, d'unité de la communauté éducative pour donner un message très clair, compte tenu de cet abject assassinat de notre professeur Samuel Paty. Oui, c'était très un moment d'émotion. Oui.
Un message très clair, lequel ?
D'unité, c'est ce que je viens de vous préciser, d'unité de la communauté éducative.
Ouais. Alors, vous étiez à Muret et ce n'était pas un hasard. Le 9 octobre à Muret, quelques jours avant l'attentat de Conflans, un incident a eu lieu dans la cour de cet établissement où une enseignante a été prise à partie. On le voit, donc notre région n'est pas, ne fait pas, elle non plus, elle a aussi, elle compte aussi des incidents. C'est quoi la situation de l'Académie au regard de ces événements? Combien d'incidents, combien de signalements de ce type vous comptez?
Alors, d'abord, bien évidemment, l'Académie n'est pas épargnée, malheureusement, voilà, comme toutes les autres académies, d'autant plus que c'est une grande académie. C'est quand même, en surface, c'est la plus grande académie de France. Donc, nécessairement, malheureusement, on a des cas... ici ou là, le nombre a augmenté ces dernières années parce que malheureusement l'école n'est pas imperméable à ce qui se passe dans la société. En fait, c'est une porosité entre ce qui se passe dans la société et donc ce qui se passe dans l'école. Vous me posez la question concernant le nombre de cas. Le confinement a faussé la donne, mais je me reporte à 2018-2019 au niveau national, on avait un millier de signalements, 900 plus exactement de signalements. Au niveau de l'Académie de Toulouse, à peu près 130 signalements. Mais je dois indiquer que l'Académie de Toulouse est parmi les 6 académies de France qui signalent le plus. Ça ne veut pas dire qu'on a plus que d'autres académies, mais ça veut dire qu'on laisse passer rien du tout. On a mis en place un dispositif qui nous permet de remonter tous les faits et gestes de cette nature au niveau académique.
Eh bien, avant de revenir justement sur ce dispositif, tout de même, j'aimerais qu'on s'attarde sur la situation aujourd'hui des professeurs. Est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir continuer à enseigner sans crainte ?
Je l'espère bien. Enfin, nous sommes là pour ça. La crainte, nous l'avons tous, enseignants et citoyens. L'institution se doit bien évidemment d'assurer la sécurité des professeurs, et je peux vous assurer qu'il y a un travail étroit avec la police, la gendarmerie, à travers la préfecture, la justice, pour qu'il y ait une mobilisation là où il y a des tensions, là où il y a des signalements. Nous avons aussi une équipe mobile de sécurité qui vient en aide au chef d'établissement, au directeur d'école. Nous sommes quand même dans un pays de droit et il y a la crainte, je veux pas le nier, mais heureusement que le nombre de signalements reste quand même négligeable par rapport au nombre de classes que nous avons dans notre pays.
Et alors, vous leur dites quoi aux professeurs de l'Académie de Toulouse aujourd'hui? Vous leur dites continuez le programme, faites le cours d'EMC sur les caricatures, ou bien alors mettez certaines choses en veille?
Non, madame, il n'y a pas de cours d'EMC sur les caricatures. Il n'y a pas de
cours intitulé
ainsi. Ce que je dis aux professeurs, c'est d'abord, je leur fais confiance. Vous savez que nos professeurs sont très attachés à la notion de liberté, d'abord d'expression, mais surtout de liberté pédagogique. Il y a un programme au niveau national et il y a une déclinaison dans chaque classe en fonction des orientations, des programmes, de beaucoup d'autres choses. Et donc, ils sont libres de présenter leurs outils pédagogiques. Donc, je leur fais confiance pour savoir ce qu'il faut présenter, ce qu'il ne faut pas présenter dans un cadre pédagogique avec un objectif bien précis. On ne présente pas des caricatures juste pour provoquer, vous le savez très bien. Nous n'avons aucun professeur dans notre système qui va faire une telle démarche juste pour choquer, mais peut-être pour interpeller, peut-être pour susciter la discussion, peut-être voilà, faire bouger les lignes. Le rôle d'un professeur, il est d'abord pédagogique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire amener un élève à se poser des questions, amener un élève à avoir un regard différent sur une situation, et c'est comme cela que l'élève peut développer le sens critique qui fait de lui un citoyen éclairé. L'école est là pour former des citoyens éclairés. C'est la différence avec l'endoctrinement. Il ne suffit pas de répéter la même chose 50 000 fois, il faut aussi donner du sens à ce que nous faisons.
Et alors justement, tout de même, la montée en puissance de ces signalements, de la violence, on la voit un petit peu partout malheureusement, est-ce qu'elle ne risque pas de les exposer à une forme d'autocensure ?
Comment est-ce alors que vous c'est les... le risque.
Oui, ouais. C'est le Comment risque, vous les accompagnez madame, pour oui. qu'ils mettent en œuvre tous les enseignements prévus ? Est-ce que vous êtes là à côté d'eux pour les soutenir et comment ?
C'est effectivement le risque que vous soulignez. Nous sommes présents. D'abord, dans chaque académie, il y a ce que l'on appelle une équipe de valeurs de la République. C'est une équipe composée en particulier d'inspecteurs qui sont formés sur le fait religieux, sur un certain nombre de sujets. Et donc, les chefs d'établissement, les directeurs d'école, mais je le dis également à travers votre antenne à l'ensemble de nos professeurs, peuvent faire appel à cette équipe qui peut être réactive. Elle peut venir en appui, soit pour intervenir auprès des élèves, de leur famille, ou encore servir de conseil aux professeurs, les épauler. Et cette équipe, j'ai l'intention de la renforcer à partir du contexte actuel, même en ressources humaines. Bien évidemment, nous avons aussi des ressources pédagogiques que nous pouvons mettre et qui sont mises à la disposition des chefs d'établissement, des professeurs. Il y a beaucoup de ressources sur le site du ministère. Et donc, à chaque fois qu'il y aura un comportement qui ne correspond pas aux valeurs de la République, qui a un manquement du respect de la laïcité, nous venons en aide à nos équipes. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect pédagogique d'accompagnement, et quand le comportement des élèves n'est pas respectueux, qu'il y a des tentatives de violence, d'agression, bien évidemment, le signalement se fait automatiquement à la police, à la gendarmerie, à la justice.
Alors oui, on l'a bien compris, hein. Ces équipes des cellules de valeurs de la République, elles ont été mises en place, je crois, vous me dites si je me trompe, par le ministre Blanquer. Elles interviennent, ces cellules, à partir du moment où un incident peut être signalé, mais avant que l'incident ne se produise, comment vous faites proche de vos professeurs qui peuvent craindre être mal compris, qui peuvent craindre de faire tel ou tel cours? Comment est-ce qu'ils sont aidés? Parce que vous parlez d'une liberté, mais cette liberté, elle a des limites tout de même.
Par la formation. Par la formation, l'accompagnement se fait d'abord par cette cellule, encore une fois, qui est mise effectivement en place depuis 2017 par le ministre Jean-Michel Blanquer. Mais il y a aussi la formation initiale et continue qui prend en considération ce type de débat de société. Et vous savez aussi qu'il y a des inspecteurs disciplinaires en ce qui concerne le second degré qui peuvent épauler leurs professeurs. Et dans le second degré, nous avons des inspecteurs de circonscription. Vous voyez bien que ils ne sont pas isolés comme on peut le croire, il y a un accompagnement, ils savent à qui s'adresser. Alors malheureusement, encore une fois, des sujets de société traversent la porte de l'école, et donc malheureusement c'est encore une fois à l'école de résoudre un certain nombre de problèmes.
Alors justement, à propos de l'isolement supposé des professeurs, un autre fait supposé a été mis en avant, c'était le silence complice, hein, et le fameux pas de vagues qu'il serait demandé aux professeurs, surtout ne pas heurter, surtout ne pas faire de vagues. Je pense également au rapport Aubin, hein, cet ancien inspecteur général qui a fait un rapport sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il vient aussi de publier un livre, Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, sur ce pas de vague. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Mostapha Fourard ?
Ben, je vous renvoie à ce que vous avez dit tout à l'heure vous-même, madame. Vous avez été témoin, vous avez parlé de l'affaire Murray. Murray, c'est pas une affaire qui a été mise sous le tapis, puisque nous l'avons traitée. Elle a été médiatisée, c'était pas notre choix. Ça a fuité parce que la professeure qui était impliquée a porté plainte. Elle n'aurait, d'ailleurs, je l'ai eu au téléphone, et elle n'aurait jamais porté plainte si elle avait su que que ça allait être médiatisé. Tout simplement pour sa propre sécurité. Je comprends bien sa crainte. Donc, vous ne pouvez pas me donner cet argument de ce rapport d'il y a quelques années. Enfin, je m'en rappelle même plus combien de temps maintenant.
2004.
Par rapport à la situation aujourd'hui où il n'est pas question de mettre sous le tapis quoi que ce soit. Le pas de vague, c'est vrai que c'est une formule qui sonne très bien, mais elle n'a pas une vraie réalité dans notre académie. Sur ce sujet-là, je peux vous assurer que mon engagement est total. Nous jouons la transparence. Nous ne cherchons pas à médiatiser tout ce qui se passe dans notre académie, mais je peux vous garantir que tout ce qui se passe dans les établissements scolaires est remonté systématiquement à la police, à la gendarmerie. Je pense que le préfet de région pourrait témoigner dans ce sens et peut-être même la justice. Donc, cette histoire de pas de vague, si elle a existé, elle n'est plus de mise aujourd'hui dans notre système éducatif. On ne peut pas l'accepter.
Eh bien, ce message fort mérite effectivement d'être entendu. Donc, vous avez parlé des cellules de valeurs de la République qui permettent à ce que les professeurs signalent toute tentative d'entrave à la laïcité. Il y a un autre risque également dont j'aimerais parler avec vous, Mostapha Fourard, c'est que la violence soit dirigée contre les élèves eux-mêmes par un élève fiché S. Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que c'est un risque possible ?
Comme pour le reste de la société, vous savez que nous avons malheureusement un certain nombre de personnes fichées S. Il appartient à la justice. Il peut y en avoir. C'est un suivi qui est assuré par la police. Nous n'avons pas accès, nous, à cette information précise de tel fichier S ou pas, parce que vous savez ce que ça veut dire, fichier S, c'est simplement sous surveillance. Ça ne veut pas dire qu'il y a des faits avérés qui peuvent être retenus contre la personne, auquel cas elle est plutôt traduite devant la justice. Dans notre société, vous le savez, dans notre pays, un certain nombre de jeunes sont passés par des zones de guerre et qui sont revenus, ils sont surveillés de très près et donc il appartient à la police de nous indiquer le cas échéant et de mettre hors état de nuire des élèves qui pourraient représenter un danger pour nos élèves. À ce stade, nous n'avons pas eu ce type de comportement dans notre académie, mais à ma connaissance non plus au niveau national. Donc il ne faut pas qu'on joue à se faire peur non plus, parce que sinon on va créer une ambiance anxiogène où finalement aller à l'école apparaîtrait plus dangereux que rester chez soi, ce qui n'est absolument pas la vérité.
Ben vous faites bien de le préciser. Selon vous, Mostapha Fourard, nos enfants sont en sécurité lorsqu'ils ils sont à l'école aujourd'hui, devant l'école ?
Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des actions et malheureusement, ça arrive. Mais quand vous regardez le nombre d'actions qui peuvent avoir lieu, ils peuvent avoir lieu dans une école comme ils peuvent avoir lieu en dehors de l'école. Et dans le cadre de Vigipirate, il y a eu un renforcement de la sécurité dans les établissements scolaires et une mobilisation des forces de l'ordre autour des établissements scolaires. J'en profite d'ailleurs pour remercier la police, la gendarmerie hier qui s'est mobilisé lundi matin, qui s'est mobilisé autour des établissements scolaires. Ça a été visible. Nos professeurs ont apprécié, les chefs d'établissement m'ont fait remonter cette information. Donc, merci aux forces de l'ordre.
Faire garder les établissements, justement, par la police ou l'armée de façon continue, c'est une éventualité ?
Il y a un plan Vigipirate qui est mis en place en fonction des menaces d'attentats. C'est le ministère de l'Intérieur qui gère cette affaire. Bien évidemment, il aurait été souhaitable qu'on ne soit pas dans cette situation, mais la sécurité de nos personnels et de nos élèves justifie cette mobilisation. Et donc, elle n'est pas anxiogène non plus, elle n'est pas toujours très visible. Il y a aussi le travail qui se fait de suivi, de repérage, de renseignement, qui nous permet aussi d'assurer la sécurité de nos personnels et de nos élèves.
Un dernier mot, Mostapha Fourard, il concerne la sécurité sanitaire. Cette fois, Georges Méric, le président du Conseil de Haute-Garonne, a dit chez nos confrères de France Bleu Occitanie qu'il faudrait envisager la fermeture des établissements scolaires. Est-ce que c'est une éventualité prochaine, selon vous ?
Vous savez, l'année dernière, on avait mis en place le confinement et fermeture des écoles, collèges et lycées. Nous avons mis en place la continuité pédagogique qui a fonctionné pour une partie de nos élèves et pas pour tout le monde, malgré l'investissement de nos professeurs. Donc, envisager le confinement et donc la fermeture des écoles, collèges et lycées, c'est retomber dans la même difficulté du décrochage scolaire. Et ce sont toujours les mêmes qui vont payer l'addition de manière très très chère. Donc, à ce stade, je peux vous assurer qu'il n'y a pas cette hypothèse de travail. Peut-être au niveau des lycées, le ministre de la Santé l'a évoqué, compte tenu de l'âge de nos élèves dans les lycées, mais il est souhaitable de maintenir les écoles et les collèges ouverts, et je pense que les parents également sont d'accord sur ce point-là. À ce jour, nous n'avons pas de cluster dans nos écoles, donc je ne vois absolument pas pourquoi on devrait fermer les écoles, les collèges et lycées. Merci. Regardez, depuis lundi, il n'y a pas eu une seule école, un seul collège, un seul lycée fermé pour cause de Covid.
Merci beaucoup, Mostapha Fourard. Vous êtes, je le rappelle, recteur de l'Académie de Toulouse. On faisait un point ce matin sur l'Académie au regard de la question de sécurité. Un grand merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.